Bonsoir à tous. À la une de l'heure du crime ce soir, un certain nombre d'affaires non élucidées et d'abord l'énigme de Bruay-en-Artois. Parmi les trop nombreux cas de crimes non élucidés, l'affaire de Bruay-en-Artois est l'exemple malheureux d'une enquête difficile, rendue impossible à résoudre en raison du contexte politique, social et médiatique de l'époque. Il ne faut pas l'oublier, c'était il y a 47 ans, en 1972. À cette époque, Georges Pompidou est président de la République. La France résonne encore un an et demi après la mort du général de Gaulle des échos des événements de mai 68. Les mines de charbon du nord de la France commencent à fermer, puis après puis, les mineurs sont inquiets pour leur avenir. Et puis, le 6 avril 1972, on découvre le corps sans vie d'une jeune fille de 15 ans, Brigitte Devèvre, sur un terrain vague d'une petite ville du nord de la France, en plein pays minier. La petite ville s'appelle Bruay-en-Artois. C'est le premier grand fait divers de l'ère télévisuelle. Une instruction à ciel ouvert, avec un juge qui prend à témoin les journalistes de l'avancée de son enquête. L'affaire se transforme rapidement en affaire politique, avec la mise en cause d'un notable, le notaire des Houillères du Nord, Pierre Leroy, accusé d'être le meurtrier de cette jeune ouvrière. La justice est soupçonnée de protéger ce notable. La France est coupée en deux. Il y a ceux qui croient à la culpabilité du notaire, et puis ceux qui pensent que le juge Pascal, un des fondateurs du syndicat de la magistrature, mène son enquête uniquement à charge. Après une instruction chaotique et les vrais faux aveux d'un jeune homme de 17 ans, l'enquête policière va s'enliser définitivement. Bilan, 1000 pièces de procédure, des centaines de procès-verbaux, 3600 pages de dossiers, et pas de coupable. L'affaire de Bruay est prescrite depuis 2005. On ne saura jamais qui a assassiné Brigitte Devèvre. La plupart des protagonistes de l'affaire de Bruay-en-Artois ne sont déjà plus de ce monde, sauf peut-être l'assassin. Nous allons revenir en détail sur l'ensemble de cette affaire passionnante avec mon invité Bernard Hotclock. Dans un instant. Vous savez que vous avez rendez-vous avec l'heure du crime tous les jours entre 20h et 21h. Cette émission a été préparée comme toutes les autres par Justine Vigneault. C'est Mathieu Desmousseaux qui est à la réalisation technique de cette émission. Mon invité, je vous le présente tout de suite, Bernard Hotclock. Bonsoir.
Bonsoir Jacques Pradel, bonsoir à tous.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien, vous êtes écrivain, vous êtes passionné par les affaires criminelles, les grandes affaires criminelles, mais aussi par les petites, les connues et les inconnues. Et vous avez publié un livre, Les grandes affaires criminelles non élucidées. C'est un livre qui paraît aux éditions De Boré et qui est passionnant parce que il touche évidemment aux affaires non élucidées qui fascinent toujours le public. Et vous dites, avant de parler évidemment des affaires que vous avez retenues et de celles sur lesquelles on va donner beaucoup plus de détails ce soir, dans l'introduction de votre livre, vous faites remarquer que bien sûr, il y a des crimes parfaits, rares sont les crimes parfaits, dont on peut dire d'ailleurs c'est un crime parfait. Et puis il y a une autre catégorie, si on aime les catégories, ça serait de dire, il y a les affaires, la vérité judiciaire qui est un point de suspension ou un grand point d'interrogation, mais on se dit quand même que ceux qui ont mené l'enquête, ceux qui ont mené l'instruction, les proches comme on dit pudiquement du dossier, pensent qu'en fait ils connaissent l'identité de celui ou de celle qui a tué, mais sans pouvoir le prouver. Et puis il y a quand même quelque chose qui rend les affaires non élucidées, Bernard Hotclock, beaucoup plus rares qu'avant, c'est quand même les progrès de la police scientifique.
Absolument. Maintenant, depuis une vingtaine d'années, l'ADN, enfin toute la criminalistique a fait de tels progrès, on peut considérer presque impossible de commettre un homicide sans laisser de traces. Ouais. Cela dit, et comme pour rappeler aux êtres humains qu'ils sont faillibles, eh bien, il y a toujours des négligences, il y a toujours des cafouillages en tout genre, il y a toujours des dysfonctionnements, en un mot, qui font que certaines affaires restent soit non élucidées, soit imparfaitement élucidées.
Voilà, on peut parler de l'affaire Grégory, dont le feuilleton n'est toujours pas terminé, qui est toujours une affaire en plein développement encore aujourd'hui.
Je vous dirais qu'on peut parler depuis la guerre, affaires, bon, trois grandes affaires du même type que l'affaire Grégory, l'affaire Dominici en 1952, l'affaire de Bruet-en-Artois dont nous reparlerons tout à l'heure en 72, l'affaire du petit Grégory en 84, oui. deux affaires mal élucidées mais qui ont surtout donné lieu à un phénomène médiatique et sociologique presque, j'irais jusqu'à dire inconcevable, et pourtant qui s'est déroulé.
Voilà. Alors il faut dire aussi que à l'époque où ces affaires se sont déroulées, la police scientifique n'avait pas fait les progrès qui sont ce qu'elle a fait par la suite. D'ailleurs, en partie à cause de l'affaire Grégory, c'est là où les enquêteurs, la justice, les ministres se sont dit il faut quand même peut-être qu'on bâtisse en France un vrai dispositif d'analyse scientifique.
On apprend souvent de ses erreurs.
Voilà. Et on peut saluer à la fois l'IRCGN et les laboratoires qui travaillent pour la police nationale, parce que ces laboratoires sont maintenant au niveau des grands laboratoires mondiaux, et l'actualité est là pour nous le rappeler assez souvent. Alors, il y a également une affaire que vous n'avez pas citée, dont on va parler tout à l'heure. C'est une affaire qui a touché un homme politique dont le nom doit être maintenant doit dire peu de choses à ceux qui nous écoutent. Joseph Fontanet, c'était au tout début de l'année 1980.
La nuit du 2 au 3 février 1980. Alors, cet ancien ministre, il avait 59 ans, mais disons que c'était un jeune retraité qui avait déjà pris ses distances avec la politique active, a été retrouvé abattu d'une seule balle en travers d'un trottoir d'un boulevard du 16e arrondissement. Il est mort deux jours après, et ça reste, là pour le coup, ça reste une affaire véritablement non élucidée. Il y a plusieurs hypothèses plus ou moins solides, mais pas de solution.
On reviendra ensemble, bien sûr. Et puis, parmi les hypothèses, d'ailleurs, la première qui avait été émise à l'époque, on a quand même pensé qu'il y avait peut-être erreur sur la personne.
Exactement.
Et c'est peut-être une piste qui n'a pas donné tout ce qu'elle pouvait peut-être amener aux enquêteurs. Il y a également, je voudrais citer quand même quelques autres affaires dont vous parlez dans ce livre. Il y a l'assassinat de Pierre Goldman.
Alors, Pierre 1979.
Goldman, voilà. Donc, on ne va pas refaire l'affaire Pierre Goldman, mais simplement dire que ce crime, puisqu'il s'agit d'un crime et même d'un assassinat, d'un crime prémédité, en plein Paris, un homme abattu de plusieurs balles par un commando, bon, avec des revendications vraisemblablement un peu fumeuse, de supposé groupe de honneur de la police,
exactement,
etc. On est en plein dans la politique aussi, dans la mouvance d'extrême gauche, on va dire, née de 1968. Mais un fait est, c'est que, en 2019, on n'en sait pas plus.
On a une hypothèse un peu solide, mais effectivement, aucun jugement n'a été rendu, et en tout cas, aucune preuve.
Ouais. Si on voulait être complet, et vous avez l'habitude de l'être dans vos livres, on dirait aussi que parmi ces affaires non élucidées, il y en a qui sont non élucidées parce qu'il y a eu erreur. On dit l'erreur est humaine. Il y a eu de mauvaises enquêtes, il y a eu de mauvaises décisions, il y a eu ce que vous appelez, je crois que vous l'appelez pas comme ça, mais en gros des affaires judiciaires, des erreurs judiciaires à l'envers, quoi. C'est-à-dire la justice décrète que quelqu'un est innocent et quelques mois ou quelques années plus tard, on s'est dit mais ils se sont lourdement trompés. Ouais. Ça existe aussi.
Bon, pour ne pas faire de polémique, allons aux États-Unis et prolongeons l'affaire O.J. Simpson. Effectivement, la justice française à plusieurs reprises a acquitté, donc rendu définitivement et officiellement innocent, des coupables avérés.
Voilà. Alors, on ne va pas citer d'affaires françaises de ce côté-là, vous avez raison, parce que quand il nous arrive de revisiter un certain nombre de ces dossiers, on a une influence de messages de gens disant « Mais comment osez-vous revenir sur cette, finalement, un certain nombre de vérités semblent révélées, alors qu'en fait, quand on met le nez dans le dossier, et un certain nombre d'ailleurs d'anciens policiers ou en retraite l'ont fait, c'est très difficile à admettre pour le public qu'un tel ou un tel ait pu être innocent du crime qu'on l'accusait, parce qu'il y a eu des campagnes de presse, parce qu'il y a eu aussi des gens qui, très sincèrement, pensaient que ces personnes avaient été injustement condamnées.
L'irrationnel l'emporte là sur les faits indiscutables.
Voilà. Et quand vous parlez de O.J. Simpson, on peut dire que c'est ce grand sportif américain, évidemment, qui était connu, c'est le moins qu'on puisse dire, de l'ensemble du continent américain et du monde entier, finalement. Cet homme accusé d'avoir tué sa femme et un ami de sa femme, je crois, va être innocenté devant la justice, Mais ensuite, comme souvent aux États-Unis, il y a un procès civil.
Oui.
Procès civil pour voir... et là, il est condamné à indemniser ses victimes, ce qui est complètement contradictoire, puisqu'il a été acquitté.
Bah vous évoquiez Pierre Goldman. En fait, Pierre Goldman, c'est une double énigme. D'abord, qui l'a tué? Et ensuite, était-il, en 1970, ou non, coupable du...
du double meurtre... hold-up dans une pharmacie.
Et du meurtre de deux pharmaciennes et d'un témoin. Oui. Or, il a été d'abord condamné, puis acquitté. Mais le jugement civil qui le jugeait coupable n'a jamais été cassé. Donc, de ce côté-là...
On est dans une situation très, très comparable. Et je dis pour la petite histoire, O.J. Simpson, au cours de ce procès civil, a été confondu par la justice civile, mais ça n'avait, évidemment, ça ne pouvait pas être pris en compte par la justice...
Autorité de la chose jugée.
Voilà. Alors, on va parler de vérité judiciaire, et puis peut-être de vérité entre les lignes, avec vous, Bernard Rodecoq, et dans un petit instant, je vais rappeler à tout le monde, pour qu'on sache exactement de quoi on parle, les circonstances dans lesquelles l'affaire, qu'on appelle l'affaire de Brouet-en-Artois, a éclaté. Nous sommes le 5 avril 1972 à Brouet-en-Artois, en plein pays minier, une ville ouvrière de 25 000 habitants dans le département du Pas-de-Calais. Ce soir-là, vers 19h30, une adolescente de 15 ans et demi, la petite Brigitte Devèvre, quitte la maison de mineurs de ses parents, rue de la Comté, pour aller dormir, comme elle le fait presque chaque soir, chez sa grand-mère qui habite rue du Languedoc. Quelques minutes plus tard, on l'aperçoit rue de Ranchicourt, en train de discuter avec un homme d'environ 1,75 m, selon les témoins, qui porte un pull bleu à col roulé. C'est la dernière fois qu'on la verra vivante. Le lendemain, 6 avril, en début d'après-midi, des gamins qui jouent au ballon découvrent son corps dans un terrain vague qui sépare les corons des quartiers bourgeois de la ville. Elle est partiellement vêtue d'un chemisier écossais et d'un soutien-gorge. L'autopsie démontrera qu'elle n'a pas été violée. On l'a étranglée. Puis le corps a été traîné sur une centaine de mètres. Elle a ensuite été mutilée à coups de hachette et abandonnée là où on l'a trouvée, à 9 mètres très exactement de la haie d'une villa blanche, celle de Monique Béguin-Mailleur, la fille du plus gros marchand de meubles de Bruay. Madame Béguin-Mailleur est à cette époque en instance de divorce. Depuis 18 mois, elle est devenue la maîtresse d'un notable de cette petite ville, le notaire des Houillères du Nord et aussi le notaire des riches propriétaires de la région. Il est membre du Rotary Club, c'est un homme respecté, assez hautain et même cassant, diront certains. Il s'appelle Pierre Leroy, il a 37 ans. Pour l'heure, il habite encore chez sa mère en attendant de pouvoir épouser Monique. Et pour ne pas la compromettre lorsqu'il lui rend visite, il ne gare pas sa voiture devant la villa, mais derrière, côté jardin, à quelques mètres de l'endroit où l'on vient de découvrir le corps de l'adolescente assassinée. Le 11 avril, Pierre Leroy est interrogé sur son emploi du temps le soir du meurtre. Pour ne pas impliquer sa maîtresse, dira-t-il plus tard, il s'embrouille dans ses explications, donne 5 versions différentes de son emploi du temps dans la soirée du 5 avril. Il ne peut donner aucun alibi pour un trou de 20 minutes entre 20h10 et 20h30 ce soir-là. Le 13 avril, il est inculpé d'homicide volontaire et incarcéré sur décision du juge d'instruction chargé de l'affaire, le juge Henri Pascal, qui est l'un des fondateurs du tout nouveau syndicat de la magistrature et qui ne fait pas mystère de ses opinions de gauche. Sur RTL, c'est Jean-Pierre Defrin qui annonce l'inculpation du notable.
C'est un notaire de Bruay en Artois, Pierre Leroy, 37 ans, qui depuis 48 heures était interrogé sans relâche par les policiers de Lille au sujet de l'assassinat de Brigitte, 16 ans. Il y a une heure, Pierre Leroy a été inculpé d'homicide volontaire. Comme il l'avait déjà fait au cours de l'enquête, il nie toute participation à cette affaire. C'est jeudi dernier vers 21h que des passants avaient découvert le crime dans un terrain vague. Brigitte de Vervre gisait entièrement dévêtue, son visage était meurtri par de nombreux coups et sa tête avait une profonde entaille. Pierre Leroy était très connu à Bruay en Artois et dans la région. Il était membre des clubs les plus chics, très lié avec ce que l'on appelle la bonne société locale. Bref, c'était un homme très considéré. Je vous le répète, il vient d'être inculpé d'homicide volontaire.
Toutes les conditions sont désormais réunies pour faire de l'assassinat de Brigitte de Vervre un crime de classe. Le juge Pascal, qu'on appellera le petit juge, est un personnage médiatique, comme on dirait aujourd'hui. Ce méridional, un peu rondouillard, aime en effet la presse. Il parle volontiers de son instruction, il évoque ses hypothèses personnelles devant les micros et les caméras, et il est soutenu dans son combat par la presse de gauche et aussi par une association locale, le Comité pour la vérité et la justice, qui s'est créé sous l'impulsion de la gauche prolétarienne. Ces anciens maoïstes de mai 1968 veulent en effet mener une enquête populaire. Ils sont persuadés de la culpabilité du notaire et de la culpabilité aussi de sa compagne. Leur journal, La cause du peuple, ne fait pas dans la dentelle. On peut y lire par exemple ceci, je cite, ouvrez les guillemets, « Un bourgeois qui mange des steaks d'une livre quand les ouvriers meurent de faim ne peut être qu'un assassin d'enfants. » Fin de citation. L'affrontement va prendre de telles proportions d'ailleurs que le philosophe Michel Foucault, inquiet d'une telle hystérie, va inviter Jean-Paul Sartre, qui soutient le comité Vérité-Justice de Bruay, à réfléchir aux limites de la justice populaire. Il lui demande officiellement de calmer ceux qui appellent au lynchage du notaire. Le 27 avril, une reconstitution du crime a lieu en présence de plusieurs milliers de personnes. La fiancée du notaire y assiste, elle est insultée par la foule. Le lendemain, l'avocat de Pierre Leroy, avec l'accord du procureur de Béthune, demande la mise en liberté du notaire, qui ne cesse de clamer son innocence depuis le début. Demande rejetée immédiatement par la chambre d'accusation de Douai, qui soutient le petit juge dans son combat. Henri Pascal va d'ailleurs aller encore plus loin. Le 1er juillet, il inculpe Monique Béguin-Mayer de complicité de meurtre et il multiplie ses déclarations publiques pour dire à la presse ses certitudes. Mais une semaine plus tard, coup de théâtre. Le notaire est libéré et le juge Pascal est officiellement dessaisi de l'affaire par la Cour de cassation. Il est remplacé le 20 juillet par le juge Sablerol du parquet de Paris qui reprend les commandes de l'enquête, donc dans une ambiance pour le moins houleuse. Une manifestation à Béthune réunit plus de 2000 personnes à l'appel du comité Vérité-Justice qui annonce sa décision de poursuivre l'enquête populaire avec l'aide des habitants de Bruay en Artois. Un an plus tard, un jeune homme, ami de Brigitte de Vervre, qui a le même âge qu'elle, s'accuse du meurtre. Ce garçon, considéré comme instable par les éducateurs de l'institut où il est placé, s'appelle Jean-Pierre Flahou. Il est depuis le début un membre actif également du comité Vérité-Justice. La police va trouver, en perquisitionnant chez son frère aîné, une paire de lunettes. Une paire de lunettes qui appartient à Brigitte. Le comité laisse entendre que le jeune homme est manipulé et qu'il a même peut-être été payé pour endosser la responsabilité du crime. Une nouvelle reconstitution a lieu le 1er mars 1974, puis une seconde le 3 avril. Elles ne donneront rien. Le jeune homme tient des propos peu cohérents qui ne correspondent pas aux constatations de l'enquête, mais il est maintenant le suspect numéro un. Son procès aura lieu le 27 juin 1975, avec un nouveau coup de théâtre. Les parents de Brigitte de Vervre ont décidé de ne pas se porter partie civile. Jean-Pierre Flahou sera relâché le 15 juillet et définitivement relaxé, au bénéfice du doute, par décision de la Cour d'appel de Paris le 26 février 1976. Entre-temps, les époux Leroy ont bénéficié d'un non-lieu définitif. L'affaire est classée sans suite en 1981. Le crime, lui, a été définitivement prescrit en 2005. Le juge Pascal est mort en 1989, Pierre Leroy en 1997. Aujourd'hui, la ville de Brueil-en-Artois n'existe plus. Elle est devenue, par rapprochement avec une commune voisine, Brueil-la-Buissière. Et le terrain vague du meurtre a laissé place à un lotissement de belles maisons blanches, bien alignées, où le souvenir de l'affaire est maintenant enfoui. Décidément, le meurtre de Brigitte Devèvre est bien un crime parfait.
L'heure du crime sur RTL.
L'invité de l'heure du crime ce soir, pour parler bien sûr de l'affaire Brueil-en-Artois, mais aussi d'autres affaires énigmatiques dans un instant, c'est Bernard Hautecloque. Alors, j'ai voulu être très précis et rappeler les détails, les différents rebondissements de cette affaire. On va laisser pour l'instant de côté l'aspect politique qui, on peut dire, a largement pollué l'enquête criminelle. Hein, bon, vous dites même quelque part que peut-être que le fameux juge Henri Pascal, certes, il avait créé un syndicat de gauche, le syndicat de la magistrature, mais enfin, vous dites que finalement, personne ne sait comment il aurait réagi si le suspect avait été un
exactement.
Ouvrier.
Exactement. J'ai pris la défense du juge Pascal. Oui. Bon, il a été très critiqué. Mais pas, à juste titre sur certains aspects, mais je crois que c'est à tort qu'on l'a accusé de parti pris.
Mais c'est vrai qu'il était contre le secret de l'instruction, et ça c'était ses idées, son idéologie. Il voulait faire des instructions à ciel ouvert.
Au grand public.
Il donnait rendez-vous, donc comme ça, aux journalistes sur l'escalier du palais de justice, etc., mais pour dire ce qu'il pensait.
Il est même arrivé de convoquer les médias avant une perquisition.
Oui. Ça lui a été reproché, évidemment, ce qu'on a dit.
C'est pour ça qu'il a été sanctionné, d'ailleurs. Ouais.
Bon, alors, si on revient aux premières constatations, parce que certains se demandent peut-être pourquoi, brutalement, le notaire Pierre Leroy est mis en examen, parce qu'il y a un trou dans son emploi du temps, entre 20h et 20h30. Que dit l'autopsie, alors ?
Alors, l'autopsie a pu être très précise sur l'heure de la mort, parce que la jeune Brigitte avait mangé une orange à 6h30, et vu l'état de sa digestion, on a pu placer l'heure de la mort entre 20h et 20h15.
D'accord, ça c'est la médecine légale qui le dit.
Exactement.
Et donc, on peut également, et ça vous allez nous dire pourquoi, penser que le corps, que cette malheureuse jeune fille n'a pas été tuée à l'endroit où on l'a retrouvée dans ce terrain vague.
Effectivement, c'est très énigmatique. D'abord, le corps était sec alors qu'il avait plu toute la nuit.
Ouais.
Ensuite, il était plein d'excoriations, ce qui donnait à penser...
Quoi, des griffures.
Oui, c'est cela, des griffures, ouais. Ce qui donnait à penser qu'on l'avait traîné, par exemple,
à travers une haie
de conifères, et par hasard, à 9 mètres de là, ouais. La haie de la Villa Mayer était formée de ce genre de conifères.
Ouais.
Mais pour l'instant, les premiers jours, la police, bon, une enquête de routine, notamment une enquête de voisinage. Et voyez le hasard, une voisine se plaint que ce soir-là, une 504 Peugeot est égarée en stationnement gênant. Et elle a relevé le numéro. Ouais. C'est la voiture de Maître Leroy.
Ouais.
Bon. Par routine, on est quand même loin, on le convoque, on imagine un interrogatoire de routine, et cet interrogatoire de routine se passe très mal pour Pierre Leroy.
Oui, parce que il ne va pas donner la même version il dit j'ai dîné avec... non mais je prends ça parce que je m'en souviens, mais il dit qu'il a mangé, je ne sais plus, un plat froid, elle va dire qu'elle lui a concocté un bon petit plat chaud. Ensuite, ce qui étonne le juge, parce que c'est pour ça que je trouvais très bien que c'est pas à nous de réhabiliter un juge, mais de mettre les choses au point quand même par rapport au juge, parce Pascal, il avait des raisons de penser à la culpabilité de Pierre Leroy, tout simplement parce que il va dire « je garais ma voiture là, je voulais pas compromettre ma fiancée ». Le juge va lui dire, mais attendez, tout le monde sait dans le pays, vous allez manger au restaurant ensemble, tout le monde sait que c'est votre maîtresse, bon, pourquoi la protéger là, etc. Donc il y avait un certain nombre de points.
Absolument.
qui avait évidemment à être ensuite creusé par l'enquête, etc. Ce qui n'a pas, peut-être pas été le cas. Et puis, mais peut-être que j'anticipe, mais les pistes suivies, quand je relis le récit que vous donnez dans votre livre, Les grandes affaires non élucidées, en fait, le premier suspect qui s'impose tout de suite, c'est lui, et on ne va pas chercher ailleurs.
C'est cela. Alors, le juge avait quand même ses raisons. Le roi n'a pas avoué d'entrée de jeu qu'il était venu rendre visite à sa maîtresse. D'abord, il l'a pris de très haut, c'est tout juste, il n'a pas engueulé ceux qui l'interrogeaient. Ensuite, il a multiplié les mensonges, il a multiplié les contradictions. Il lui a fallu plusieurs heures pour reconnaître que finalement, bah, il était tout simplement venu rendre visite à sa copine. Mais il y avait contradiction, il y avait également l'impression qu'il faisait. Là, le juge a été subjectif. C'est vrai que Maître Lebon, paix à son âme, mais c'est vrai qu'il ne donnait pas une impression extrêmement sympathique. Et le juge s'est sans doute laissé impressionner par ça. Et il y a eu pire. Un moment où il était en détention, il a demandé à sa Monique Meyer de lui apporter de la nourriture. Et dans la nourriture, ils ont échangé des messages comme quoi il fallait synchroniser leur récit. Et ces messages ont été interceptés et ils ont fait une impression des plus déplorables.
Bien sûr. Et alors, il faut dire à la décharge, cette fois, de Pierre Leroy, que sa visite chez Monique Meyer, le soir, le fameux soir du 5 avril, avait pourtant eu un témoin, et c'était la vieille mère de Monique Meyer. Or, son témoignage n'a pas été retenu.
Elle était très âgée, elle était mal d'ailleurs, elle est morte quelques mois plus tard, donc son témoignage a été jugé non recevable. Bon.
Ouais, mais pourtant. En fait, encore un mot, parce qu'on va parler après de l'autre hypothèse, puisqu'il y a eu un coup de théâtre énorme, c'est ce jeune homme de 17 ans,
ami
un an plus tard. Mais avant, il y a eu le dessaisissement du juge. A lieu sur quelle base ?
Alors, il s'est écoulé 3 mois entre le début de l'affaire et son dessaisissement. Et il faut se rappeler que cette affaire était devenue d'abord un énorme phénomène médiatique, et ensuite, mais dans un deuxième temps seulement, politique. On parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Depuis le code pénal de 1993, la présomption d'innocence est sacro-sainte, les chroniques judiciaires sont généralement anonymes, les photos sont floutées. Dans les années 1970, pas du tout. Être mêlé à une affaire criminelle, ne serait-ce que comme témoin, ça voulait dire votre photo dans les journaux, votre nom, parfois votre adresse.
Voilà, et les suppositions et les hypothèses.
Absolument.
D'un peu n'importe qui.
Quand un journaliste ou un membre du public jugeait quelqu'un coupable, il ne se gênait pas pour le dire et pour exposer ses arguments.
Voilà, alors on va revenir à cette affaire dans quelques instants, cette fois avec ce que j'appelais un coup de théâtre, c'est ce garçon, Jean-Pierre Flao, qui va s'accuser lui-même d'avoir tué cette jeune fille, et puis on va essayer de comprendre ensemble pourquoi il a été acquitté finalement, faute de preuves, mais je crois que là, la justice n'a certainement pas fait une erreur judiciaire, quoique, il faut vous lire pour se faire une opinion à 100%. Les grandes affaires criminelles non élucidées, c'est le titre du livre publié par mon invité Bernard Haute-Cloque. Bruit en Artois, le notaire Pierre Leroy, tout le monde s'en souvient, a fini par être acquitté, ainsi que sa compagne.
On a prononcé un non-lieu, il n'est même pas passé en jugement le
notaire. Oui, absolument, il n'y a pas eu de jugement. Et puis ensuite, alors, il y a eu cette autre hypothèse, ce rebond à partir de 1973, Jean-Pierre Flao. Alors, qui est Jean-Pierre Flao et pourquoi brutalement tout le monde se dit, mais bon sang, et si c'était lui ?
Alors, tout simplement, un jeune homme du quartier, qui d'ailleurs était ami avec les frères de Brigitte, le soir, il avait été entendu par le juge Pascal, comme presque tous les proches, or, il avait donné un alibi qui était faux. Et finalement, il avait dit qu'il était resté traîné dans les rues. Bon, le juge qui tenait son coupable n'avait pas insisté. Mais Jean-Pierre Flao ne s'était pas fait oublier, au contraire. Bon, il faut savoir
Il était dans le comité en question, vérité-justice déjà.
C'est la même ambivalence que lors de l'affaire Grégory. Les habitants de Bruay-en-Artois protestaient contre cette affluence de journalistes barnum médiatique, mais dans le même temps, ils ne déteignaient pas y participer. Et Jean-Pierre Flao se faisait inviter par tous les journalistes pour dire « Ah, si je disais tout ce que je savais, ben vous seriez épatés ». Bon, on le prenait pas trop au sérieux. Et un an après le crime, il décide de frapper un grand coup. Il dit ici « C'est moi qui ai tué Brigitte ouais. ». Mais attention, c'était un accident.
Ouais. Et il s'accuse quand même.
Quoi. Absolument, ouais. Absolument.
Mais alors, il va donner, il va changer 8 ou 9 fois de version.
Oui.
Et il va donner des éléments qui ne correspondent pas, d'après ce que j'ai compris, à toutes les constatations, en tout cas aux constatations, on va dire, des enquêteurs.
Oui. Bon, c'est difficile de rentrer dans tous les détails, mais il dit qu'après une querelle, il l'avait frappée plus forte qu'il le voulait, et pour l'empêcher de parler, il l'avait étranglée et affolée. Il avait laissé le cadavre là où on l'a traîné. Là où on l'a... Mais enfin,
là
ça n'expliquait...
Trouvé, ouais.
Oui, ouais. Là où on l'avait trouvé. Ouais. Mais ça n'expliquait pas ce qu'il avait fait du cadavre pendant la nuit, ça n'expliquait pas les excoriations, etc.
Ouais.
Beaucoup de points restaient à élucider.
Puis alors, j'ai précisé dans le petit récit tout à l'heure, la famille de Brigitte Devèvre ne croit pas un instant qu'il ait pu tuer. On pense même qu'il a peut-être été payé. Oui, non, mais
peut-être
c'était...
aller loin, mais oui, effectivement, bon. À Bruay-en-Artois, on le croit pas. C'est un mythomane, voilà. C'est un imbécile qui veut attirer l'attention sur lui. Ah. Et ces conneries, pour parler comme le père de Brigitte, ça ne sert qu'à détourner l'attention des vrais coupables.
Oui, mais Bernard Hautecloque, il y a quand même l'histoire des lunettes.
Absolument.
Alors, qu'est-ce que c'est ? Expliquez-nous.
Alors, il avait prétendu avoir gardé les lunettes de Brigitte un peu comme un trophée et les avoir laissées chez son frère, chez qui il habitait.
Alors, il faut dire que dans les constatations, ça avait été noté par tout le monde qu'on n'avait pas retrouvé ses lunettes, ni ses chaussures d'ailleurs, je crois, de mémoire. Mais en tout cas, elle était très myope et elle ne se déplaçait jamais sans ses lunettes.
Elle n'aurait pas pu marcher sans lunettes. Et effectivement, Jean-Pierre produit une paire de lunettes qu'il affirme être les siennes. Or, les parents de Brigitte disent non, pas du tout, c'est des lunettes de fille, mais c'est pas les lunettes que portait Brigitte.
D'accord. Donc, en fait,
une énigme de plus.
Tombe, voilà. Mmh. Et il va y avoir, donc, on passe un certain nombre d'événements qui vont se dérouler. D'ailleurs, le juge Pascal, qui n'est plus saisi, va faire des déclarations à la presse, je m'en souviens, en disant que si on condamne ce garçon, eh ben là, on sera sûr d'avoir commis une erreur judiciaire. Et le 15 juillet 1975, Jean-Pierre Flao est finalement acquitté au bénéfice du doute, donc par le tribunal pour enfants de Paris. On va écouter un document RTL de ce jour-là. Claude Fouchier, ce jour-là, sur RTL, donne les dernières informations qu'il a recueillies après la décision de la justice. C'était dans le journal présenté par une journaliste qui s'appelle Françoise Parineau. Écoutez leur dialogue.
Jean-Pierre, l'inculpé de l'affaire de Bruay-en-Artois, vient d'être acquitté au bénéfice du doute par le tribunal pour enfants de Paris. C'est ce que souhaitaient d'ailleurs les parents de la victime, monsieur et madame Devèvre, qui avaient décidé de ne plus être partie civile. Claude Fouché, qui vous a donné cette information au cours du journal de 13h, je crois, a d'autres précisions à nous apporter maintenant.
Oui, vous dites, Françoise, que les parents de Brigitte Devèvre sont satisfaits par ce jugement. Ils ne le sont pas tout à fait, puisque pour eux, il y a eu meurtre et il n'y a toujours pas de meurtrier. Alors il est fort, on peut penser et on peut même parier que les parents de Vèvre vont déposer maintenant une plainte contre X de façon à rouvrir un autre dossier, puisque c'est la seule façon donc d'avoir un supplément d'informations dans cette affaire.
Oui, mais Madame Devèvre avait bien dit en entrant au tribunal la dernière fois qu'elle ne croyait pas à la culpabilité totale de Jean-Pierre. Enfin, elle était contre.
Bien sûr, elle n'y a jamais cru et Monsieur et Madame Devèvre n'ont jamais cru à la culpabilité de Jean-Pierre. Ce qui n'empêche que cet acquittement ne les satisfait pas, puisque s'il y a acquittement, il n'y a pas supplément d'informations. Or, pour eux, ce qui les intéresse, si j'ose dire, c'est de retrouver et de savoir qui a tué Brigitte.
Ah, c'est ce que le père de Brigitte Devèvre avait rappelé dans une interview en disant « La politique, je m'en fous, ce que je veux, c'est la vérité. » Alors, en fait, les deux journalistes, ils sont tous les deux d'accord, pas pour les mêmes raisons, mais c'est vrai que les parents veulent la vérité, bien sûr.
Oui, ils ont alors aidé par plusieurs journalistes amis et par plusieurs avocats, ils ont multiplié la procédure pour retarder le plus possible la prescription.
Ouais.
Mais, alors, ils ont réussi, le crime n'a été prescrit qu'en 2005, c'est quand même un délai anormalement long, mais finalement, ils ont échoué à trouver l'assassin de leur fille.
Voilà. Donc, en fait, c'est le constat qu'on faisait au tout début de l'émission, que c'est un véritable crime parfait, puisqu'il n'y a pas de vérité judiciaire, en tout cas, et que il n'y a pas d'auteur. Et il y a eu par la suite, et je voudrais qu'on entende ce document qui est un reportage de Christophe Decroix, qui s'est rendu à Bruay-en-Artois en 1997.
L'année de la mort de Pierre Leroy.
Voilà, le 26 octobre 1997, on apprend que Pierre Leroy est mort, qu'elle demeure une énigme. Et écoutez le reportage de Christophe Decroix qui avait été diffusé sur RTL quelques jours plus tard, le 28 octobre 1997, dans le journal qui était présenté à l'époque par Stéphane Boutsock.
À Bruay, rien n'est plus comme avant. La petite cité minière où vivent toujours les parents de Brigitte Lelèvre a été entièrement rénové. C'est maintenant un quartier verdoyant où il n'y a plus depuis longtemps de mineurs. Le terrain où a été retrouvé le corps de l'adolescente est maintenant construit et le juge Pascal a disparu. Il n'y a que deux choses qui n'avaient pas changé. Maître Leroy avait toujours son étude notariale en bordure du quartier et à 69 ans, Marie-Thérèse Douèvre, la maman de Brigitte, réclame toujours justice pour sa fille.
Depuis 25 ans, on est toujours au même point. Et on peut encore trouver, c'est pas du tout la fin du combat, on est toujours à la recherche d'un assassin. Pour nous, c'est comme si c'était passé hier.
Dans le coron, bon nombre d'habitants ont changé. Et seuls les plus anciens se souviennent encore.
On a presque oublié, on a vécu tout cela, mais maintenant, on en parle encore de temps en temps. Mais monsieur le notaire est toujours le notaire, hein. On l'a toujours connu.
Et oui, à Bruay, tout a changé, même le nom. À la suite d'une association avec la ville voisine, Bruay-en-Artois est devenu Bruay-la-Buissière.
Et pour terminer sur cette affaire Bruay-en-Artois, vous confirmez, Bernard Leclocq, même si maintenant la vérité apparaissait, même si maintenant quelqu'un s'accusait, ou si quelqu'un trouvait qui a fait le coup, si j'ose dire.
On pourrait toujours le soupçonner de mythomanie, parce que si longtemps, presque un demi-siècle après, comment prouver ?
Voilà, l'émission n'est pas terminée. On se retrouve dans quelques secondes pour évoquer une autre affaire ô combien mystérieuse qui s'est déroulée au tout début de l'année 1980. C'était l'assassinat d'un homme politique de l'époque, Joseph Fontanet.
Jacques Pradel sur RTL.
C'est la dernière partie de cette émission de l'heure du crime consacrée à quelques-unes des affaires criminelles évoquées dans son livre par mon invité Bernard Hautecloque. Le livre est paru aux éditions De Boré. Vous avez choisi 8 de ces affaires, je voudrais quand même les rappeler. Il y a celle de Louis Renault.
Oui, alors la mort de Louis Renault.
Mis à part le fait que tout le monde connaît la marque de voiture, bah c'est l'inventeur des Renault. Pourquoi vous êtes intéressé à cette histoire, parce qu'il est mort pendant la guerre, hein,
à
l'hôpital.
Il est mort à la Libération, ouais. Et d'une façon très énigmatique. C'est un des rares patrons à avoir dû rendre compte de son attitude, parce que bon, il avait collaboré. Il est un des rares patrons à avoir dû rendre compte de son attitude. Et le procès n'a jamais eu lieu parce qu'il est mort 15 jours après son incarcération.
Voilà. Ce qui ne demande pas d'être mystérieux. On peut se demander si c'est une mort naturelle ou
malheureusement,
une mort sur ordonnance.
Malheureusement, voilà. on l'a presque sûrement aidé.
Voilà. Alors, vous évoquez aussi, là, on cite à la fois soit des noms, soit des affaires. Simone Vadier,
le grand fait divers des années 48-49, complètement éclipsé par l'affaire Marie Bénard, qui a d'ailleurs commencé tout de suite après. Ouais. Mais un fait divers qui, à mon avis, mérite d'être lu.
Qui se passe dans un lieu particulier,
un home d'enfants, dans le Puy-de-Dôme. Directeur meurt brusquement. Est-ce qu'il a été assassiné ? Est-ce que c'est un accident ? Est-ce que c'est un accident de santé ?
Ouais. Enfin, il faut dire que
toute
c'est un donjon
passionné,
un donjon compulsif, si
Mais
j'ose
oui.
dire, que finalement l'une des personnes qui était censée, cette Simone Vanier, dont vous parlez, qui était censée se draper dans sa dignité parce que etc. L'autre lui aurait mis les mains là où il fallait pas. En fait, elle est devenue la maîtresse de cet homme qui va mourir, dira-t-elle. Et diront un certain nombre d'experts médecins pendant une crise d'épilepsie, en disant d'ailleurs que ce qu'elle décrit est exactement ce qui se passe dans une crise d'épilepsie, sauf que il va y avoir un deuxième, alors là je laisse le plaisir de la découverte à ceux qui vous entendent ce soir, il va y avoir une deuxième autopsie.
Une bataille d'experts, pas la dernière.
Et là on va trouver peut-être quelque chose qui rappelle un étranglement, etc. Et bref, la Simone Vanier en question va être traînée en cour d'assises et elle va être acquittée. Voilà. Non, mais c'est une histoire que je recommande vraiment à tous. C'est un film, c'est un téléfilm, moi je trouve.
Voilà. Il mériterait.
J'attire l'attention là, s'il y a des producteurs de télévision, l'affaire Simone Vallier, inconnue du grand public et absolument passionnante. Bon, et puis Marie Bénard, évidemment, on connaît la bonne dame de Loudun. Bon,
Dominici.
Et voilà, Dominici aussi, et puis Agnès Leroux, bien sûr, Pierre Goldman, dont on a parlé. Et puis alors, l'affaire Fontané. Alors, le 1er février 1980, Joseph Fontané, qui est un homme politique, on va dire, de centre-droit, qui a été plusieurs fois ministre sous Georges Pompidou, est abattu devant son domicile dans le 16e arrondissement de Paris. La nouvelle arrive à la rédaction d'RTL pratiquement à l'heure où les faits viennent d'intervenir, et immédiatement, un journaliste de la rédaction, Alain Hamon, qui est un spécialiste des faits divers et des affaires criminelles, fonce sur place, il se retrouve sur les lieux du crime, en même temps d'ailleurs que les policiers de la brigade criminelle. Écoutez, les premières informations qu'il donne dès les premières éditions matinales sur RTL le lendemain matin, les premières informations qu'il a pu glaner, elles sont très maigres.
D'après les premiers renseignements recueillis sur place, quand nous sommes arrivés avec les policiers de la brigade criminelle, eh bien, il n'y a pas de témoins. Et c'est assez difficile, donc, en l'absence de témoins, de savoir ce qui s'est réellement passé. Les seuls témoins qui ont vu quelque chose ont d'abord été des témoins auditifs. Ils ont entendu des coups de feu. Et lorsqu'ils sont approchés du trottoir où gisait Joseph Fontané, atteint par ces deux projectiles, eh bien, le ou les agresseurs s'étaient déjà enfuis. Il était 0h30 environ, Joseph Fontané avait tenu une conférence assez tard, et il remontait du matériel dans son appartement, et c'est en faisant le dernier voyage, en s'approchant de sa voiture, qu'il a été agressé. On ne sait pas si les agresseurs étaient en voiture ou s'ils l'attendaient sur le trottoir. S'ils l'attendaient sur le trottoir, peut-être a-t-il vu le ou les tireurs, et ça, bien sûr, les policiers de la brigade criminelle attendent que Joseph Fontané soit définitivement sauvé à l'hôpital Laennec pour lui poser éventuellement les questions. Une voiture de police qui patrouillait dans le quartier a pris en chasse deux hommes armés dans une voiture, mais en même temps, dans le quartier du Trocadéro, il y avait eu une agression dans un hôtel. Alors on ne sait pas très bien si ce sont les agresseurs de M. Fontané qui ont été pris en chasse à ce moment-là, ou les gens qui ont attaqué le veilleur de nuit de cet hôtel. Et de toute façon, cette voiture avec ces deux personnes armées n'a jamais été rattrapée. Alors, pour le moment, eh bien, comme le disait un enquêteur de la brigade criminelle que j'ai rencontré sur place vers 2h moins le quart ce matin, eh bien, c'est la pénombre la plus complète.
Voilà, il faut dire que Joseph Fontané ne donnera jamais aucun détail parce qu'il est mort des suites de ses blessures, je crois, le lendemain.
Oui.
Enfin, voilà, dans les heures qui ont suivi. Alors, évidemment, il va y avoir une pression politique sur, comme d'habitude.
Ben, hein, n'oublions pas, nous sommes connu. Quelques mois après le suicide de Robert Boulin et
absolument.
Trois ans après l'assassinat du prince de Breuil, qui lui aussi un ancien ministre. Voilà. Trois anciens ministres qui meurent de mort violente. Ça commence à faire beaucoup.
Ouais. Alors, qu'est-ce que, d'un mot, l'enquête va aller où alors ?
L'enquête, votre journaliste l'a dit, l'enquête n'avait vraiment pas de... Les policiers ne savaient pas où commencer. Ouais. Joseph Fontané était en retrait de la vie politique depuis quelques années. C'était un homme d'une probité absolument inattaquable. Ouais. Il ne s'était jamais laissé entraîner, ne serait-ce que par faiblesse, dans aucune affaire douteuse. Une vie privée absolument transparente. Alors bon, vous avez une cascade, comme toujours dans ces cas-là, de revendications plus ou moins fumeuses, extrême-gauche, extrême-droite. Oui. La seule revendication qu'on avait prise au sérieux, c'était les vengeurs du CES Payron. En quelques mots, le CES Payron,
l'incendie d'un lycée.
En 1973, oui. Collège du 19e arrondissement avait brûlé, ça avait fait 20 victimes, et Fontané, à l'époque, était ministre de l'Éducation nationale. C'est la seule piste que la police a pris un petit peu au sérieux, mais sans rien déboucher, sans pouvoir déboucher sur rien.
Ouais. Pas de lien non plus avec la conférence. Alain Hamon rappelait, il avait donné une conférence la veille au soir.
Sur l'utilisation de l'informatique dans l'administration des collectivités locales, vraiment.
Bon, alors on a cherché quand même un petit peu, est-ce qu'il n'avait pas des dossiers secrets? Quel est votre, là il nous reste vraiment deux minutes avant la fin de l'émission, quel est votre sentiment personnel?
Mon sentiment, alors la police avait arrêté, je ne sais pas si c'est à ça qu'on fait allusion, avait arrêté une bande de voyous qui s'amusaient dans le 16e arrondissement à tirer sur des bourgeois.
Ouais.
Mais Ils n'ont jamais avoué et finalement, là aussi, ça s'est terminé
ça,
par un non-lieu.
L'hypothèse du meurtre gratuit. Quoi,
absolument.
En fait, voilà.
On a aussi évoqué une erreur parce que Joseph Fontaine était le quasi-sosie d'un ancien général du Shah qui s'appelait ici, qui habitait son
du Shah d'Iran, bien sûr,
qui habitait son quartier et qui a été abattu exactement 4 ans plus tard. Alors, est-ce que c'est une erreur d'un commando action des services secrets de l'Iran des ayatollahs. Hypothèse, voilà. Mais hypothèse intéressante.
Et en tout cas, meurtre parfait. Là, il n'y a pas de question de peut-être on a remis un assassin en liberté.
On n'a que des hypothèses et aucune n'est très solide. Il faut bien dire ce qui est.
Je vous remercie beaucoup, Bernard Rocklop.
C'est moi qui vous remercie.
Et bravo pour votre travail, qui est un travail d'historien également. Vous citez vos sources d'ailleurs et un certain nombre d'ouvrages qui ont été publiés sur sur le sujet. Les affaires, les grandes affaires criminelles non élucidées. C'est aux éditions de Boré, signé donc Bernard Hautecloque, qui était mon invité ce soir. Merci beaucoup.
Mais merci à vous et bonne soirée.
Et l'émission est maintenant terminée.